Wikipédia, Étienne Marcel. Étienne Marcel, né entre 1302 et 1310 et mort à Paris le 31 juillet 1358, est prévôt des marchands de Paris sous le règne de Philippe VI de Valois, puis sous celui de son fils Jean le Bon. Il se retrouve à la tête du mouvement réformateur qui cherche à instaurer une monarchie contrôlée in France en 1357 en affrontant le pouvoir royal exercé par le dauphin. Délégué du tiers-état, il joue un rôle considérable au cours des états généraux tenus en pleine guerre de Cent Ans. Ceux de 1355 avaient pour objectif le contrôle de la fiscalité, ceux de 1356 demandaient le prélèvement de nouveaux impôts et ceux de 1357 devaient régler le paiement de la rançon du roi Jean. Les États se révélant incapables de résoudre la crise qui accable le royaume, le dauphin Charles peut reprendre le pouvoir et sauver la couronne des Valois. Étienne Marcel meurt assassiné par les bourgeois parisiens, qui considèrent qu'il est allé trop loin dans son opposition et qu'il pourrait livrer la ville aux Anglais. Contexte. La société féodale en crise. Étienne Marcel, comme Jacob van Artevelde en Flandre, est une personnalité issue du grand patricien urbain proche du pouvoir, qui s'est illustré par la défense des petits artisans et compagnons qui forment le gros des citadins. Pour autant, ils ne sont que les catalyseurs les plus connus d'un profond mouvement de réforme répondant à la crise du système féodal. Au XVIe siècle, la noblesse et le clergé ne tiennent plus le rôle qui leur était initialement imparti dans une société à trois ordres. Les mutations économiques et culturelles donnent lieu à une différenciation au sein du tiers-état de la bourgeoisie, qui prend une place incontournable à tous les niveaux de la société. Le mécontentement inhérent à la crise et l'exemple des cités flamandes, italiennes ou de la Hanse lui donnent l'occasion d'essayer de montrer que les villes seraient plus à même de gérer la société et de répondre aux nouveaux impératifs économiques de plus en plus centrés sur le commerce et moins sur la propriété foncière. Montée en puissance de la bourgeoisie. Depuis la Renaissance de l'an 1000 où elle s'est structurée, la société médiévale a considérablement évolué. L'Europe a fortement progressé techniquement, artistiquement et démographiquement. Les villes se sont développées créant de nouvelles classes sociales centrées sur l'artisanat et le commerce. Le système féodal et religieux à trois ordres instauré depuis le mouvement de la paix de Dieu est adapté à une société agricole et décentralisée. La noblesse protège les terres et rend la justice. Les religieux sont les guides spirituels de la communauté. Ils s'occupent des œuvres sociales et contribuent à maintenir et à développer la culture. Les paysans, quant à eux, par leur travail, assurent la fonction productrice. À partir de la fin du XIe siècle, l'équilibre entre les trois ordres se rompt. Le développement des villes a nécessité la création d'un État centralisé rendant justice, unifiant la monnaie et devant protéger le pays contre les attaques éventuelles de royaumes capables de lever des armées importantes. Une telle structure doit être financée et l'État a d'autant plus besoin de ressources financières que le système féodal se maintient par la redistribution de richesses vers ses vassaux. Le grand patricien commerçant possède des ressources financières très abondantes qu'il prête aux princes et aux ecclésiastiques. Il devient un acteur incontournable. Ne disposant pas d'une administration suffisante et voulant limiter la puissance des grands féodaux, les Capétiens délèguent aux bourgeois de plus en plus de pouvoir politique, fiscaux et judiciaires créant de véritables zones franches aux grands carrefours commerciaux. La multiplication des affaires à régler a rendu impossible leur seul traitement par les rois et la grande noblesse qui ont alors délégué une partie de leur pouvoir judiciaire à des parlements et autres cours de justice. À l'époque, plutôt que d'entretenir une coûteuse administration, les souverains ont pris l'habitude de faire prélever les taxes par de riches particuliers qui leur cèdent le montant souhaité et se remboursent en percevant les impôts pour leur compte, ce qui assure de confortables bénéfices. En Angleterre, les revers de Jean sans terre contre Philippe Auguste avaient conduit les barons anglais à lui imposer en 1215 la Magna Carta, la Grande Charte, qui instituait, entre autres, la liberté des villes et le contrôle de la fiscalité par le Parlement. En France, Philippe le Bel instaure des états généraux où la noblesse, le clergé et les villes sont représentés pour avoir une légitimité à lever des impôts y compris sur les terres d'église et rassembler la nation naissante pour faire bloc contre le pape qui ne peut accepter de telles taxes et proclame la primauté du spirituel sur le temporel par la bulle pontificale Unam Sanctam. De 1302, Boniface VIII revendique l'instauration d'une théocratie. D'autre part, pour les besoins du commerce, puis pour sa propre ascension sociale, le patricien urbain a pris en charge une partie de la culture, créant des écoles laïques et finançant un mécénat culturel. De la même manière, il finance nombre d'œuvres sociales. La plupart des innovations techniques sont alors le fait de laïcs, ingénieurs, architectes, tel Villard de Honnecourt, artisans, tel Jacopo et Giovanni di Dondi, concepteurs de l'horloge à échappement. Le clergé perd une partie de son rôle culturel ou social dans les espaces urbains. Pour obtenir le rôle politique que leur importance croissante dans la société devrait leur donner, de nombreux bourgeois tentent d'être anoblis. C'est la voie que choisit par exemple Robert de Loricky, devenu proche conseiller de Jean le Bon, use de son soutien ou d'alliances matrimoniales judicieuses pour placer ses proches. La haute bourgeoisie adopte des comportements qui rappellent ceux de la noblesse. La prévôté organise par exemple, en 1330, un tournoi où bourgeois combattent comme des chevaliers. Ceux qui, comme Étienne Marcel, n'appartiennent pas au cercle très restreint du pouvoir sous Jean le Bon et dont la promotion sociale est bloquée deviennent les plus fervents promoteurs d'une réforme politique qui doit aboutir au contrôle de la monarchie par les États. Crise de la féodalité? Alors que, sous l'effet des progrès des techniques agraires et des défrichements, la population s'accroît en Occident depuis le X siècle, on franchit un seuil qui dépasse les capacités de production agricole dans certaines zones d'Europe dès la fin du X siècle. Par le jeu des partages successoraux, les parcelles se réduisent. Elles n'ont plus en 1310 que le tiers de leur superficie moyenne de 1240. Certaines régions comme les Flandres sont en surpopulation et essayent de gagner des terres cultivables sur la mer. Néanmoins, pour couvrir leurs besoins, elles optent pour une économie de commerce permettant d'importer les denrées agricoles. En Angleterre, dès 1279, 46% des paysans ne disposent que d'une superficie cultivable inférieure à 5 hectares. Or, pour nourrir une famille de 5 personnes, il faut de 4 à 5 hectares. La population rurale s'appauvrit, le prix des produits agricoles baisse et les revenus fiscaux de la noblesse diminuent alors que la pression fiscale augmentait donc les tensions avec la population rurale. Beaucoup de paysans tentent donc leur chance comme saisonniers dans les villes pour des salaires très faibles, engendrant aussi des tensions sociales en milieu urbain. Le refroidissement climatique et l'évolution de l'économie vers la spécialisation de la production et le commerce provoquent de mauvaises récoltes qui se traduisent du fait de la pression démographique en famine qui avait disparu depuis le XI siècle. Dans le nord de l'Europe en 1314, 1315 et 1316, Ypres perd 10% de sa population et Bruges, 5% en 1316. La noblesse doit compenser la diminution de ses revenus fonciers et la guerre en est un excellent moyen. Par les rançons perçues, après capture d'un adversaire, le pillage et l'augmentation des impôts justifiés par la guerre. C'est ainsi que la noblesse pousse à la guerre, et particulièrement la noblesse anglaise, dont les revenus fonciers sont les plus touchés. En France, le roi Philippe VI a besoin de renflouer les caisses de l'État et une guerre permettrait de lever des impôts exceptionnels. L'essor du commerce a rendu certaines régions dépendantes économiquement de l'un ou de l'autre royaume. À cette époque, le transport de fret se fait essentiellement par voie maritime ou fluviale. La Champagne et la Bourgogne alimentent Paris via la Seine et ses affluents et sont donc pro-françaises. La Normandie est partagée car elle est le point d'union entre ce bassin économique et la Manche qui devient une zone d'échange de plus en plus intense grâce au progrès des techniques maritimes, le contournement de la péninsule ibérique par les navires italiens devient de plus en plus fréquent. L'Aquitaine qui exporte son vin en Angleterre, la Bretagne qui exporte son sel et les Flandres qui importent la laine britannique ont tout intérêt à être dans la sphère d'influence anglaise. Ainsi, les marchands flamands en voulant échapper à la pression fiscale française se révoltent de manière récurrente contre le roi de France, d'où les batailles successives de Courtrai en 1302, où la chevalerie française est laminée et où les bourgeois flamands montrent que les villes peuvent battre militairement l'host royal, de Mons en Pévèle en 1304 et de Cassel en 1328, où Philippe VI mate les rebelles flamands. Les flamands apportent leur soutien au roi d'Angleterre, déclarant même en 1340 qu'Édouard III est le légitime roi de France. Les deux États ont donc intérêt à augmenter leurs possessions territoriales pour accroître leur rentrée fiscale et renflouer leurs finances. Dès lors, les intrigues des deux rois pour faire passer la Guyenne, la Bretagne et les Flandres sous leur influence conduisent rapidement à la guerre entre les deux États. Elle durera 116 ans. Bien évidemment, les conséquences de cette guerre interminable sont lourdes pour le commerce, d'autant qu'elle entraîne une augmentation des la pression fiscale. Le discrédit des Valois. En France, le début de la guerre de Cent Ans est catastrophique et le pouvoir royal, très contesté à partir de la défaite de Crécy en 1346. En outre, grâce à une série d'artifices légaux, Philippe VI est monté sur le trône de France au détriment d'Édouard III, qui revendique aussi cette place en tant que petit-fils de Philippe IV, le Bel par sa mère. De la même manière, Charles II de Navarre peut prétendre au trône, sa mère Jeanne, fille de Louis X le Hutin ayant été écartée lors de la crise dynastique de 1316 à 1328, pour éviter qu'un étranger puisse par mariage prendre le contrôle du pays. Les manœuvres du roi de Navarre pour jouer de la rivalité franco-anglaise et l'ascendant qu'il prend sur le duc de Normandie conduisent Jean le Bon à intervenir brutalement. Le 5 avril 1356 à Rouen, le roi se saisit du Navarrais et le fait jeter en prison. À cette époque, la noblesse doit justifier son statut social par une conduite chevaleresque sur le champ de bataille. Or, Crécy est un désastre contre une armée pourtant très inférieure numériquement et où Philippe VI prend la fuite, remettant en cause la légitimité divine des Valois. Ce discrédit est aggravé par l'apparition de la Grande Peste en 1348, corroborant l'idée que cette dynastie n'était pas soutenue par Dieu. Édouard III et Charles de Navarre voient donc l'occasion de faire valoir leurs revendications respectives à la couronne de France et en profitent pour séduire les villes en laissant espérer l'institution d'une monarchie contrôlée. D'autre part, le pays rechigne à payer les taxes nécessaires au fonctionnement de l'État. Depuis Philippe le Bel est souverain, recourt à des mutations monétaires qui affaiblissent le cours de la monnaie et entraînent une forte inflation mais qui permettent d'importantes recettes. L'État est bien le seul à en tirer bénéfice. La noblesse, le clergé et la grande bourgeoisie, qui sont propriétaires fonciers, voient fondre la valeur des rentes et loyers. Les dévaluations pèsent sur les échanges, pénalisent le commerce, d'autant que Paris est un immense centre de consommation et doit importer des marchandises qui deviennent de plus en plus chères, en particulier des tissus des Flandres, et sur le pouvoir d'achat du reste de la population. Au total, les plus riches souhaitent une monnaie forte, les plus pauvres une monnaie faible, mais tout le monde a intérêt à une monnaie stable. Les débuts de la guerre, catastrophiques pour le royaume de France de la guerre, ont entraîné un surcroît de dépenses. Rançons à payer, armées à financer, villes à fortifier, le commerce est gêné par l'action des compagnies qui sévissent à partir de 1356. Les villes n'ont aucun intérêt à la guerre. Les ravages de la peste entraînent de nouveaux déséquilibres. La pénurie de main-d'œuvre risque d'augmenter le coût du travail et celui des denrées agricoles. Jean le Bon régit par la promulgation, en 1351, de l'ordonnance sur les métiers de la ville de Paris. Il fixe arbitrairement les prix et les salaires et permet l'installation libre des travailleurs pour éviter les bandes de vagabonds et pillards qui ravageraient le pays, ce qui brise le système des corporations qui protègent les artisans déjà en place. Le ressentiment général contre les Valois qui n'ont pas su rendre évident l'intérêt des sacrifices consentis est majeur. Dans les villes naît le sentiment que le royaume serait mieux géré par les états généraux. Charles de Navarre, auréolé de son sang royal, est un brillant orateur et sait se faire le champion du parti réformateur. Possession de Charles de Navarre. États pontificaux. Territoire contrôlé par Édouard III. Zone d'influence économique anglaise. Zone d'influence culturelle française. Paris, capitale économique et politique. Étienne Marcel évolue dans ce contexte de crise où les villes deviennent la force politique principale et en particulier Paris, qui est de très de loin la première agglomération d'Occident. Vers 1328, la population parisienne est estimée à 200 000 habitants, ce qui en fait la cité la plus peuplée d'Europe. Cependant, en 1348, la peste noire décime la population. En tant que capitale, elle regroupe une bonne partie de la noblesse qui doit faire valoir son statut par une vie ostentatoire et dépensée sans compter, et de l'administration. Ces gros consommateurs induisent l'installation de nombreux artisans et d'artistes. Elle est aussi un centre universitaire de premier ordre. Au total, Paris est un énorme centre de consommation qui, grâce au bassin de la Seine, est un point d'échange important de denrées, venant des foires de Champagne, de la riche région normande et donc de l'Atlantique, mais aussi des régions drapières du Nord, Flandre, Artois, Brabant. Au XIXe siècle, l'enceinte de Charles V, 1371-1380, englobe l'ensemble des actuels 3e et 4e arrondissements et s'étend du pont royal à la porte Saint-Denis. Au total, Paris est le siège de la cour et de l'administration, palais de la cité, de l'université et un énorme centre marchand et artisanal. Y vivent l'essentiel des représentants des trois ordres. Biographie. Origine familiale. La famille Marcel est l'une des plus puissantes de la bourgeoisie parisienne. Pierre Marcel est un familier de Saint-Louis qui l'accompagnait en croisade. Cette famille de drapiers est très étendue et forme un réseau solidaire. Les Marcel importent des tissus de Flandre et de Brabant, ils sont fournisseurs de la cour et du roi auquel ils prêtent aussi de l'argent. Ils s'enrichissent aussi grâce aux spéculations immobilières et autres affaires auxquelles leur donne accès leur présence à la cour en vendant par exemple au roi des maisons proches du palais lorsqu'il fallut l'agrandir. Cette famille sait élargir le cercle de ses alliés par une politique matrimoniale d'union avec d'autres puissantes familles bourgeoises parisiennes, les Poilvillain, les Cocatrix ou les Biouard. Cependant, Étienne, s'il n'est pas issu de la branche la plus aisée de la famille, est rejeté par sa mère d'une lignée d'officiers de l'hôtel royal et par son père de fournisseur de la cour. Les débuts. Étienne Marcel, né entre 1302 et 1310, fils de Simon Marcel, drapier, et d'Isabelle Barbou, se lance dans les années 1330 dans le commerce du drap. Associé à Jean de Saint-Benoît, il vend à la cour des marbrés verdelais, importés de Flandre et du Brabant. Il se marie avec Jeanne de Dammartin, fille d'un riche échevin parisien, puis avec Marguerite des Essarts, fille d'un banquier dont les relations lui permettent d'entrer en politique et de créer de nouveaux liens avec les riches marchands des communes flamandes. Propriétaire dans Paris de nombreux bâtiments, il habite rue de la Vieille Draperie, dans l'île de la Cité. Conflit avec Robert de Lory. Cependant, ses alliés Pierre des Essarts, son beau-père, ou Jean Poilvien, sont régulièrement employés par le roi pour des mutations monétaires qui sont un bon moyen pour procurer à l'État des ressources financières quand l'impôt devient de plus en plus difficile à faire accepter. Ces manipulations, qui diminuent la teneur en métaux précieux du numéraire, entraînent des dévaluations qui sont très mal perçues par la population des villes et la noblesse. Une dévaluation réduit la valeur des redevances seigneuriales à montant fixe. En 1346, à la suite de la bataille de Crécy, ils sont rendus responsables du mauvais gouvernement et sont jetés en prison. Étienne Marcel aurait intercédé auprès du comte de Flandre Louis de Mal pour faire libérer Pierre des Essarts. Celui-ci sort de prison sans être condamné ni acquitté, même en 1349. Dès lors, Étienne Marcel est l'un de ses héritiers, mais se méfiant des amendes qui pourraient tomber sur la fortune du défunt une fois le procès terminé, il est soucieux de la dot de sa femme, il refuse la succession. Robert de Lory, un autre puissant bourgeois, est lui aussi l'un des gendres de Pierre des Essarts. Il laisse revenir dans l'entourage royal dès 1347, à tel point qu'il est l'un des proches conseillers de Jean le Bon, dont il obtient le 7 février 1352 la réhabilitation de Pierre des Essarts. Bien informé, il n'a pas renoncé à la succession et est le seul à hériter de 50,000 livres. Étienne Marcel vit cela comme une escroquerie dont il fait les frais. La rancune s'accroît contre les spéculateurs qui gravitent autour du Jean le Bon quand l'argentier du roi décide de se passer des drapiers parisiens et de passer directement ses commandes à Gand, Louvain ou Bruxelles. Ce grand patricien proche du pouvoir est associé aux diverses spéculations monétaires et immobilières et honni par la rue Étienne Marcel, en rupture avec son milieu d'origine, choisira en 1357 de devenir le champion de la rue. Prévôt des marchands de Paris. Étienne Marcel entre dans les deux plus prestigieuses confréries parisiennes, la Grande Confrérie de Notre-Dame, 1338, et la Confrérie Saint-Jacques-aux-Pèlerins. Les membres de cette dernière font serment de faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle dont la Navarre est un point de passage obligé et dont son roi, Charles le Mauvais, est aussi membre de la confrérie. Il est proche du mouvement réformateur dont Étienne Marcel sera l'un des principaux meneurs. Étienne Marcel prend un rôle prééminent dans ses confréries, et en 1350, il est cité comme prévôt de la Grande Confrérie de Notre-Dame. Fort de son influence grandissante, il succède en 1354 à Jean de Passy comme prévôt des marchands. En 1246, Saint-Louis décide d'aligner le statut de la prévôté de Paris sur celui des bailliages et nomme un prévôt fonctionnaire. Afin d'éviter un conflit avec les bourgeois dépossédés de leurs prérogatives, il les autorise à élire leur prévôt et quatre échevins qui l'assistent pour les représenter et s'occuper de l'approvisionnement de la ville, des travaux publics, de l'assiette des impôts. Le prévôt des marchands, qui a la juridiction sur le commerce fluvial, prend pour sceau celui des marchands de l'eau, puissante corporation détentrice depuis 1170 du monopole de l'approvisionnement par voie fluviale. La compétence du prévôt des marchands est théoriquement limitée aux affaires commerciales, mais la charge acquiert vite un rôle politique en raison de ses forts liens avec la bourgeoisie parisienne qu'il défend face aux abus de la royauté. la juridiction du prévôt des marchands et le parloir aux bourgeois. Étienne Marcel le déplace dans la maison des piliers sur la place de Grève, actuelle place de l'Hôtel de Ville. Le prévôt peut même avoir un rôle militaire. Les villes doivent pouvoir se défendre et peuvent envoyer des troupes au roi le cas échéant. Ainsi, en novembre 1355, il conduit en Picardie le contingent parisien de l'Ost Royal lancé à la poursuite de la chevauchée du duc de Lancastre. En 1356, à la reprise du conflit, Étienne Marcel peut faire réparer les fortifications de Paris et construire un nouveau mur rive droite, dans ce qui est le centre de Paris, actuel 3e et 4e arrondissement. États généraux de 1355 et 1356. Étienne Marcel n'est pas par essence contre les Valois. Au contraire, les intérêts du roi et ceux des milieux d'affaires parisiens convergent. La guerre entraîne le blocage des routes économiques et la prospérité de Paris passe par la sécurisation de la Seine et des accès aux Flandres. Aux États généraux du 8 mai 1355, on tente de simplifier le calcul de l'impôt pour le rendre plus efficace. Mais les impôts ne rentrent pas et le roi a recours une nouvelle fois aux manipulateurs de la monnaie onie. Il rappelle Jean Poilvien et Nicolas Brock qu'il nomme respectivement au comte et aux monnaies. La monnaie est dévaluée une nouvelle fois, les rentes et loyers diminuent au grand décamètre de la bourgeoisie, de la noblesse et des prélats. La grogne monte. Confronté à la menace anglaise, Jean le Bon convoque les états généraux de Languedoc à Paris, dans la grande salle du palais de la cité, le 2 décembre 1355, pour lever l'armée de 30,000 hommes qu'il juge nécessaire. Étienne Marcel et ses alliés, son cousin Humbert de Lyon, son associé Jean de Saint-Benoît, son prédécesseur à la prévôté des marchands de Paris Jean de Passy, ainsi que ses échevins Pierre Bourdon, Bernard Cocatrix, Charles Toussac et Jean Belot, y sont les principaux représentants des villes. Les États sont extrêmement méfiants quant à la gestion des finances publiques, échaudées par les dévaluations entraînées par les mutations monétaires qui ont fait perdre à la monnaie royale 82% de sa valeur en un an. La noblesse dont les dévaluations diminuent les revenus, les redevances dues sur leurs terres sont de montant fixe, a un besoin impératif d'une monnaie forte. Les commerçants ont surtout besoin d'une monnaie stable. Après les chevauchées du prince noir en Languedoc et du duc de Lancastre en Ar. Les États ont conscience de la nécessité de lever une armée, mais plus encore de financer des garnisons pour défendre les villes. Ils acceptent la levée d'une taxe sur les transactions commerciales de 8 deniers par livre, à la condition de pouvoir en contrôler la mise en œuvre et l'utilisation des fonds prélevés et que soit émise une monnaie forte. Un collège de 9 officiers, 3 par ordre, qui prélèverait la taxe, doit être désigné par les États généraux. Les impôts rentrant mal et la nouvelle monnaie se dévaluant rapidement, les États sont réunis à nouveau, en mars 1356, et décident d'élargir l'assiette de l'impôt, en taxant aussi les revenus fonciers. Ce qui se révèle difficile, car il faudrait une administration capable de quantifier les revenus des contribuables. Fort de cette armée financée par les États, le roi poursuit le prince noir lancé dans une nouvelle chevauchée. Il le rattrape au sud de Poitiers. L'enjeu est plus que militaire. Il faut redorer le blason de la noblesse, largement ternie depuis le désastre de Crécy, et qui de plus est incapable de protéger le peuple des pillages, alors que c'est précisément son rôle dans la société médiévale. C'est dans cet esprit qu'il renvoie les troupes envoyées par les villes, pour le soutenir à la bataille de Poitiers. C'est au roi et à la noblesse de vaincre. La bataille a lieu le 19 septembre 1356, le roi Jean le Bon, ne voulant pas fuir comme l'avait fait son père à Crécy, se bat héroïquement. Il est fait prisonnier par les Anglais, mais acquiert dans cette affaire un grand prestige et sauve sa couronne. Le prince noir, impressionné, fait en sorte qu'il soit reçu avec les honneurs durant sa captivité londonienne. Son fils le dauphin Charles, qui a pu quitter le champ de bataille, assure la régence et tente de négocier avec l'Angleterre, pendant que les mercenaires démobilisés, rassemblés en grande compagnie, pillent les campagnes. Pour éviter de tels débordements, le dauphin propose de créer une armée permanente de 30,000 hommes. Pour cela, il lui faut trouver des financements, en levant de nouveaux impôts qu'il demande aux états généraux, en les convoquant à nouveau. L'ordonnance de 1357. La monarchie contrôlée. Les débuts de la régence du dauphin Charles sont difficiles. Il n'a que 18 ans. Peu de prestige personnel, d'autant qu'il a quitté le champ de bataille de Poitiers, contrairement à son père et son frère Philippe le Hardi. Peu d'expérience et doit porter sur ses épaules le discrédit des Valois. Il s'entoure des membres du conseil du roi de son père, qui sont très décriés. Les états généraux se réunissent le 17 octobre 1356. Le dauphin, très affaibli, va se heurter à une forte opposition. Étienne Marcel, à la tête de la bourgeoisie, allié avec les amis de Charles II de Navarre, dit Charles le Mauvais, regroupé autour de l'évêque de Laon, Robert Lecoq. Les états généraux déclarent le dauphin lieutenant du roi et défenseur du royaume en l'absence de son père et lui adjoignent un conseil de 12 représentants de chaque ordre. Les états exigent la destitution des conseillers les plus compromis, onis pour avoir brutalement dévalué la monnaie à plusieurs reprises, la capacité à élire un conseil qui assistera le roi, ainsi que la libération du Navarrais. Le dauphin proche des idées réformatrices n'est pas contre l'octroi d'un rôle plus important des états dans le contrôle de la monarchie. En revanche, la libération de Charles de Navarre est inacceptable car elle mettrait fin au règne des Valois. Pas assez puissant pour pouvoir refuser d'emblée ses propositions, le dauphin ajourne sa réponse, prétextant l'arrivée de messagers de son père. Congédie les états généraux et quitte Paris, son frère Louis le futur duc d'Anjou, réglant les affaires courantes. Les états généraux sont prorogés et seront convoqués de nouveau le 3 février 1357. Avant de partir, le 10 décembre 1356, le dauphin publie une ordonnance donnant cours à une nouvelle monnaie, ce qui lui permettrait de remplir ses caisses, sans passer par les États. Il s'agit cette fois d'un renforcement monétaire de 25%, ce qui avantage les propriétaires fonciers, c'est-à-dire la noblesse, le clergé et le patriciat urbain, qui possèdent une bonne partie de l'immobilier des grandes villes, donc les catégories sociales représentées aux États. Cela provoque une levée de boucliers de la population parisienne, qui voit ses loyers croître de 25%. Étienne, lui, choisit le parti des compagnons et des boutiquiers contre la grande bourgeoisie et les spéculateurs qu'il tient pour responsables de ses malheurs dans la succession de Pierre des Essarts. Il devient maître de la rue. Des échauffourées éclatées, Étienne Marcel fait pression sur Louis d'Anjou, puis sur le dauphin qui doit révoquer l'ordonnance et rappeler les états généraux. Pendant ce temps, le dauphin va à Metz rendre hommage à son oncle l'empereur Charles IV pour le dauphiné, ce qui lui permet d'obtenir son soutien diplomatique. À son retour en mars 1357, il accepte la promulgation de la « Grande Ordonnance », esquisse d'une monarchie contrôlée et vaste plan de réorganisation administrative, mais obtient le maintien en captivité de Charles de Navarre. Une commission d'épuration doit destituer et condamner les fonctionnaires fautifs et particulièrement les collecteurs d'impôts indélicats, et confisquer leurs biens. 9 conseillers du dauphin sont révoqués, Étienne Marcel tient sa vengeance contre Robert de Lory. 6 représentants des États entrent au conseil du roi, qui devient un conseil de tutelle. L'administration royale est surveillée de près, les finances, et particulièrement les mutations monétaires, et les subsides extraordinaires sont contrôlés par les États. Au cœur de l'affrontement entre Charles de Navarre et le dauphin, un gouvernement du régent contrôlé par les États avec son assentiment est donc mis en place. 2 conseils cohabitent, celui du dauphin et celui des États. Mais pour les réformateurs, et particulièrement les Navarrais, cela ne suffit pas. Le retour du roi de captivité peut mettre fin à cet essai institutionnel. D'autre part, le dauphin prend de l'aplomb et n'hésite pas en août à rappeler les conseillers sacrifiés et à demander au prévôt des marchands de ne se préoccuper que des seules affaires municipales. Étienne Marcel et Robert Lecoq organisent donc la libération de Charles de Navarre, qui peut prétendre à la couronne et est toujours enfermé. Cependant, pour se dédouaner face au dauphin, on donne à cette libération un caractère spontané, lui donnant l'aspect d'un coup de main de fidèle navarrais. Le retour de Charles de Navarre est méticuleusement organisé. Il est libéré le 9 novembre, il est reçu avec le protocole réservé au roi dans les villes qu'il traverse, accueilli par les notables et la foule réunie par les États. Le même cérémonial se reproduit dans chaque ville depuis Amiens jusqu'à Paris. Il est reçu par le clergé et les bourgeois en procession, puis il harangue une foule toute acquise, expliquant qu'il a été injustement spolié et incarcéré par Jean le Bon alors qu'il est de lignée royale. Mis devant le fait accompli, le dauphin ne peut refuser la demande d'Étienne Marcel et de Robert Lecoq et signe des lettres de rémission pour le Navarrais. Le 30 novembre, il harangue 10 000 parisiens réunis par Étienne Marcel auprès au clair. Le 3 décembre, Étienne Marcel s'invite avec un fort parti bourgeois au conseil du roi, qui doit décider de la réhabilitation de Charles de Navarre, sous prétexte d'annoncer que les États réunis au couvent des Cordeliers ont consenti à lever l'impôt demandé par le dauphin et qu'il ne reste que l'accord de la noblesse à obtenir. Le dauphin ne peut qu'acquiescer et réhabilite Charles le Mauvais. Plus dangereux encore pour les Valois, les États doivent trancher la question dynastique le 14 janvier 1358. Charles le Mauvais exploite le mois d'attente pour faire campagne. Le dauphin se montre actif en organisant la défense du pays contre les nombreux mercenaires qui, faute de soldes, pillent le pays. Les maréchaux de Normandie, de Champagne et de Bourgogne se rendent à sa cour. Il cantonne à Paris une armée de 2,000 hommes venus du Dauphiné, sous prétexte de protéger Paris des exactions des grandes compagnies. Cela met la ville sous pression. Le 11 janvier, il s'adresse aux Parisiens au hall en expliquant pourquoi il lève une armée, et mettant en cause les États sur leur incapacité à assurer la défense du pays, malgré l'argent prélevé lors des levées d'impôts. C'est un succès et Étienne Marcel doit organiser d'autres réunions noyautées par ses partisans pour le mettre en difficulté. Le 14 janvier, les États n'arrivant pas à s'entendre sur la question dynastique, ni sur la levée d'un nouvel impôt, ont décidé d'une nouvelle mutation monétaire pour renflouer les caisses de l'État. Les esprits s'échauffent contre les États pour le plus grand bénéfice du dauphin. L'exécution de l'ordonnance de 1357 est vite bloquée. La commission d'épuration est désignée mais ne fonctionne que 5 mois. Les collecteurs d'impôts nommés par les États rencontrent l'hostilité des paysans et des artisans pauvres. Les 6 députés entrés au conseil de tutelle sont en minorité et les États généraux manquent d'expérience politique pour contrôler en permanence le pouvoir du dauphin qui, en acquérant du savoir-faire, retrouve l'appui des fonctionnaires. Les déplacements fréquents, coûteux et dangereux à l'époque, découragent les députés de province et les États sont de moins en moins représentatifs. Peu à peu, seule la bourgeoisie parisienne vient siéger aux assemblées. Enfin, Jean le Bon, qui garde un grand prestige, désavoue le dauphin et, depuis sa prison, interdit l'application de l'ordonnance de 1357. Étienne Marcel, constatant l'échec de l'instauration d'une monarchie contrôlée par voie législative, essaie de la faire proclamer par la force. Il ne remet pas en cause la nécessité d'avoir un souverain, mais il cherche à composer avec celui qui lui laissera le plus de pouvoir. Il oscille entre la faiblesse supposée du dauphin et la cupidité de Charles le Mauvais. La guerre civile. Territoire contrôlé par Édouard III. Territoire cédé par la France à l'Angleterre par le traité. Territoire du duché de Bretagne, allié aux Anglais. Le premier traité de Londres. Voyant la situation évoluer vers une monarchie contrôlée avec Charles de Navarre à sa tête, Jean le Bon se décide à conclure les négociations. Pour cela, il faut négocier directement avec Édouard III. Jean le Bon est donc transféré de Bordeaux à Londres. Ses conditions d'incarcération sont royales, il est logé avec une cour de plusieurs centaines de personnes, des proches capturés avec lui à Poitiers, et ceux qui sont venus de leur plein gré. Liberté de circulation en Angleterre, hébergement à l'hôtel de Savoie. Il accepte en janvier 1358 le premier traité de Londres qui prévoit asterisque la cession, en pleine souveraineté des anciennes possessions d'Aquitaine des Plantagenets, le un tiers du pays. La Guyenne, mise sous commise par Philippe VI au début du conflit, la Saintonge, le Poitou, le Limousin, le Quercy, le Périgord, le Rouergue et la Bigorre. Astérisque une rançon de 4 millions d'écus. Astérisque Édouard III ne renonce pas à la couronne de France. La révolte des Parisiens et le meurtre des maréchaux. La nouvelle de l'acceptation, par Jean le Bon du premier traité de Londres, qui cède le tiers du territoire à l'Angleterre, provoque un tollé dont Étienne Marcel va profiter. Un proche du dauphin est assassiné le 24 janvier 1358. Le meurtrier, le valet d'un changeur parisien, est saisi alors qu'il se réfugiait dans une église et le dauphin fait de son exécution un exemple. Étienne Marcel exploite les esprits qui s'échauffent. Il y a 2 cortèges funèbres, celui de la victime suivie par le dauphin et celui du meurtrier, qui est lui suivi par la bourgeoisie parisienne. Le 22 février 1358, Étienne Marcel déclenche une émeute réunissant 3000 personnes, qu'il a convoquées en armes. La foule surprend Regnault d'Assy, l'un des négociateurs du traité de Londres, qui a rapporté la nouvelle à Paris. Il se réfugie dans une pâtisserie, où on l'égorge férocement avec ses proches. Puis la foule envahit le palais de la cité, pour affronter le régent. Étienne Marcel et certains de ses partisans parviennent à sa chambre dans le but de l'impressionner pour pouvoir mieux le contrôler. Il s'exclame « Sire, ne vous ébahissez pas des choses que vous allez voir, car elles ont été décidées par nous, et il convient qu'elles soient faites. » Le maréchal de Champagne Jean de Conflans et le maréchal de Normandie Robert de Clermont sont tués devant le prince, qui est couvert de leur sang, et croit son existence menacée. Marcel l'oblige à coiffer le chaperon rouge et bleu des émeutiers aux couleurs de Paris, alors que lui-même met le chapeau du dauphin et a renouvelé l'ordonnance de 1357. Il l'épargne car il le sous-estime et pense pouvoir le contrôler aisément. C'est une lourde erreur. Fort de l'ascendant qu'il estime avoir sur le dauphin, qu'il va faire nommer régent, il pense pouvoir se passer de Charles de Navarre, qu'il pousse à quitter Paris. Mais, le timide et frêle dauphin se révélera être un redoutable politique. De fait, jamais Étienne Marcel ne parviendra à le contrôler, même si dans les premiers temps le futur monarque n'avait pas assez de pouvoir pour affronter ce redoutable tribun. Étienne Marcel se dirige ensuite sur la place de Grève, où il remercie la foule de les encourager à éliminer les traîtres du royaume. Il écrit aux villes de province pour justifier son geste, mais seuls Amiens et Arras donnent des signes de soutien. Il force ensuite le dauphin, qui tant qu'il est à Paris, reste sous la pression éventuelle de la rue à ratifier le meurtre de ses conseillers. Le dauphin ne peut qu'accepter un nouveau changement institutionnel. Son conseil est épuré, quatre bourgeois y rentrent. Le gouvernement et les finances sont aux mains des États, Charles le Mauvais reçoit un commandement militaire et de quoi financer une armée de 1,000 hommes. Le dauphin obtient de devenir régent du royaume, ce qui permet de ne plus tenir compte des décisions du roi tant qu'il est en captivité et en particulier des traités de paix inacceptables. Pour ratifier cette nouvelle ordonnance, et en particulier valider son contenu fiscal, il faut l'accord de la noblesse, dont une partie ne veut plus se réunir à Paris, en particulier Champenois et Bourguignons scandalisés par l'assassinat des maréchaux. La noblesse doit se réunir à Senlis, l'occasion de qu'attendait le dauphin pour quitter Paris, ce qu'il fait le 17 mars. Étienne Marcel, pensant le contrôler, lui adjoint 10 bourgeois pour le représenter et surveiller le dauphin. Il participe aux états de Champagne, qui ont lieu le 9 avril à Provins. Il est soutenu par la noblesse de l'Est du royaume et les délégués parisiens sont mis en difficulté. Fort de ce soutien, le dauphin s'empare des forteresses de Montereau et de Meaux. L'accès de Paris par l'Est est bloqué. Au sud et à l'ouest, les compagnies écument le pays. Il ne reste que l'accès par le nord qui préserve l'accès de Paris aux villes des Flandres. Les accès fluviaux ayant été bloqués, Étienne Marcel doit réagir pour empêcher l'asphyxie économique de la capitale. Le 18 avril, il envoie son défi au dauphin. La ville se prépare au combat. On creuse des fossés, le remblai constituant un talus, pour arrêter les tirs d'artillerie. On finance ces travaux par une mutation monétaire et en prélevant un impôt, ce qui diminue la confiance des Parisiens envers le gouvernement des États. Le dauphin réunit alors les États généraux à Compiègne. Il décide le prélèvement d'un impôt contrôlé par les États, un renforcement monétaire, la monnaie ne devant plus bouger jusqu'en 1359. Par contre, ils abandonnent la volonté de contrôler le conseil du dauphin. Jacquerie. Le 28 mai 1358, les paysans de Saint-Léu-d'Esre, près de Creil dans l'Oise excédés, par les levées fiscales votées à Compiègne et destinées à mettre le pays en défense, se rebellent. Rapidement, les exactions contre les nobles se multiplient au nord de Paris, zone épargnée par les compagnies et tenue ni par les Navarrais ni par les troupes du dauphin. 5,000 hommes se regroupent rapidement autour d'un chef charismatique, Guillaume Carle, connu sous le nom que lui attribue Froissart, Jacques Bonhomme. Il reçoit très rapidement des renforts de la part d'Étienne Marcel, 300 hommes menés par Jean Vaillant, afin de libérer Paris de l'encerclement que le dauphin est en train de réaliser en préservant l'accès nord qui permet de communiquer avec les puissantes villes des Flandres. L'alliance avec Étienne Marcel semble réussir lorsque les Jacques s'emparent du château d'Ermenonville. Le 9 juin, les hommes du prévôt de Paris et une partie des Jacques, environ 1000 hommes, conduisent un assaut sur la forteresse du marché de Meaux où sont logés le régent et sa famille pour s'assurer de sa personne. C'est un échec. Alors que les Jacques se ruent à l'assaut de la forteresse, ils sont balayés par une charge de cavalerie menée par le comte de Foix, Gaston Phébus, et le captal de Bouche, Jean de Grailly. Mais le gros des forces de Guillaume Carle veut en découdre à Mello, bourgade du Beauvaisis le 10 juin. Écarté du pouvoir par Étienne Marcel, qui a trop vite cru contrôler le régent, après l'assassinat des maréchaux, Charles le Mauvais doit reprendre la main et montrer au prévôt de Paris que son soutien militaire est indispensable. Pressé par la noblesse, et particulièrement par les Piquigny, auxquels il doit la liberté, et dont le frère vient d'être tué par les Jacques, Charles le Mauvais y voit le moyen d'en devenir le chef. D'autre part, les marchands pourraient voir d'un bon œil que l'on sécurise les axes commerciaux. Il prend la tête de la répression, engage des mercenaires anglais et rallie la noblesse. Il s'empare par ruse de Guillaume Carle venu négocier et charge les Jacques décapités. C'est un massacre et la répression, qui s'ensuit est très dure. Quiconque est convaincu d'avoir été de la compagnie des Jacques est pendu sans jugement. La jacquerie se termine dans un bain de sang dont Charles le Mauvais porte la responsabilité alors que le dauphin a su garder les mains propres. Le siège de Paris et la mort d'Étienne Marcel. Une fois la jacquerie écrasée, Charles de Navarre rentre à Paris le 14 juin 1358. Il pense avoir allié à lui la noblesse, mais une grande partie des seigneurs, qui étaient à ses côtés, contre les Jacques, ne le suit pas dans cette démarche et reste derrière le régent, qui a su gagner leur confiance. Charles le Mauvais s'établit à Saint-Denis. Il est fait capitaine de Paris par acclamation, et Étienne Marcel envoie des lettres dans toutes les villes du royaume pour qu'il soit fait capitaine universel. L'objectif est de créer une grande ligue urbaine et d'opérer un changement dynastique en faveur du Navarrais. On engage des archers anglais pour pallier les nombreuses défections de chevaliers qui ont quitté les rangs de l'armée de Charles le Mauvais et assiègent Paris avec le dauphin à partir du 29 juin. Ce dernier se voit encore renforcé par l'arrivée de nombreuses compagnies qui voient dans le pillage de Paris une bonne affaire. Ses troupes remportent quelques escarmouches contre les troupes d'Étienne Marcel ou du Navarrais. Le dauphin veut à tout prix éviter un bain de sang qui le discréditerait et souhaite une solution négociée. Il ne fait donc pas donner l'assaut et continue le blocus en espérant que la situation change. Mais les mercenaires anglais, qui défendent la capitale, sont considérés comme ennemis et s'attirent l'inimitié des Parisiens. Le 21 juillet, à la suite d'une rixe de taverne qui dégénère en combat de rue, 34 archers anglais sont massacrés. Les Parisiens en armes en saisissent 400, qu'ils veulent soumettre à rançon. Le lendemain, Étienne Marcel, Robert Lecoq et Charles de Navarre réunissent la population place de Grève pour calmer les esprits, mais les événements leur échappent et la foule réclame de les débarrasser des Anglais. Pour maîtriser la foule, 8,000 piétons et 1,600 cavaliers en armes, ils la conduisent par groupes distincts vers les mercenaires en embuscade, ceux-ci taillent les Parisiens en pièces. 600 à 700 meurent dans ces affrontements. Les Parisiens suspectent Charles de Navarre d'avoir prévenu les mercenaires de leur arrivée, ils les acquittaient avant le combat. Leur chef soutenant les ennemis du pays contre le régent et contre la population, les Parisiens se sentent trahis et se désolidarisent d'Étienne Marcel, d'autant que Charles de Navarre attend son frère Philippe et des renforts anglais. Mais la nouvelle du massacre des Parisiens fait vite le tour de la ville et Étienne Marcel est hué à son retour à Paris. La rumeur enflue rapidement. On dit que Philippe de Navarre arrive avec 10,000 anglais. Les Parisiens redoutent qu'ils ne vengent leurs camarades et pillent la ville. Préparant l'entrée des Navarrais, Étienne Marcel fait marquer les maisons de ceux qu'il suspecte de sympathie pour le régent dans la nuit du 30 au 31 juillet. Mais les signes sont interprétés et la suspicion à son égard augmente encore. L'échevin Jean Maillard et Pépin des Essarts convainquent les bourgeois de demander l'aide du régent. Le 31 juillet 1358, à l'aube, Étienne Marcel en compagnie du trésorier de Charles de Navarre essaye de se faire remettre les clés de la porte de Saint-Denis mais se heurte au refus de Jean Maillard. N'insistant pas, il tente sa chance à la porte Saint-Antoine, mais Jean Maillard a sonné l'alerte et rameute le maximum de monde. Étienne Marcel surpris et se met de crier « Mon joie au roi et au duc ». Après hésitation, il s'écrie « Mon joie au roi ». Il est apostrophé, la foule gronde. Son sort est déjà scellé. Ah ! Le signal convenu, qu'est-ce que ceci ? Il est massacré avec ses suivants. Le dauphin qui ne croit plus en une reddition est en train de se diriger vers le Dauphiné quand on lui apprend les nouvelles en provenance de Paris. Il entre dans Paris le 2 août triomphalement, il a les mains propres. Pardonnant aux Parisiens, il n'y a que très peu de répression, seules 15 personnes sont exécutées pour trahison. Il veille à ne pas spolier les proches des exécutés, tout en récompensant ses alliés. Par exemple, la riche veuve de l'échevin Charles Toussac exécutée le 2 août est mariée avec Pierre de Dormant. Le roi récompense Jean de Dormant, un de ses fidèles, en plaçant son frère et il ne spolie pas l'héritage de la veuve de son opposant. Les conséquences de l'échec d'Étienne Marcel. La prévôté de Paris. La prévôté d'Étienne Marcel marque l'apogée du rôle politique de cette charge. Après l'échec d'Étienne Marcel, les pouvoirs de la prévôté de Paris sont réduits. En 1382, des émeutes antifiscales éclatent en France où les impôts persistent malgré le retour de la paix. Les artisans rouennais se révoltent lors des harels. Une émeute similaire a lieu le 1er mars 1382 à Paris. La foule prend possession de 2,000 à 3,000 maillets, d'où le nom révolte des maillotins, entreposés à l'hôtel de ville en prévision d'une attaque. Il libère ensuite Hugo Briot, qui fut prévôt sous Charles V, mais celui-ci refuse de prendre la tête du mouvement. Sans chef, la révolte tourne court et est vite réprimée, alors que dirigée par un personnage de la trempe d'Étienne Marcel, elle aurait facilement pu se propager à toute ville du royaume. En 1383, à la suite de la révolte avortée des Maillotins, la prévôté des marchands est confondue avec la prévôté de Paris, c'est donc un officier nommé par le roi qui dirige la capitale, et elle est juridiction des métiers dissoute. En 1413, les Parisiens tentent une nouvelle fois d'instaurer un régime de monarchie contrôlée. Les Cabochiens, soutenus par Jean sans peur et l'Université de Paris, imposent à Charles VI l'ordonnance cabochienne qui reprend les principes de la Grande Ordonnance de 1357. Mais les exactions des Cabochiens désolidarisent les Parisiens et cette révolte est sévèrement réprimée par les Armagnacs. Sa durée d'application est tout aussi courte que celle de la Grande Ordonnance de 1357. Partiellement reconstituée en 1409, la prévôté reste dès lors subordonnée au roi. Les prévôts sont de plus recrutés parmi les officiers royaux, gens de justice ou de finance, jusqu'à la suppression de la fonction par la Révolution française. Le pouvoir central reste toujours méfiant face au risque de reconstitution d'un pouvoir parisien fort. L'évolution de la monarchie. Charles V est profondément marqué par les révoltes parisiennes de 1358, où il fut menacé physiquement durant la journée du 22 février. Il fait ériger la base Tilly sur ses fonds propres. Cette forteresse a deux fonctions. Elle prévient toute invasion par la porte Saint-Antoine, protégeant aussi l'hôtel Saint-Paul, séjour préféré de la famille royale, et en cas d'insurrection dans la capitale, elle couvre la route qui mène au château de Vincennes, qui lui sert de résidence hors de Paris. De manière plus générale, la révolte parisienne, la Jacquerie ou plus tard la révolte des paysans anglais de 1390, représente une menace pour l'ordre social féodal. La formation en masse d'archers ou d'arbalétriers dans la population et de garnisons pour défendre les villes contre les chevauchées anglaises donne un poids militaire à d'autres classes sociales que la seule noblesse. C'est pour cette raison qu'en France, sous Charles VI, cette dernière demande et obtient la suppression des archers formés après décision de Charles V, ce qui vaut aux Français d'être à nouveau surclassés par les archers anglais à la bataille d'Azincourt. La mort brutale d'Étienne Marcel met aussi fin à la tentative de mise en place d'une monarchie contrôlée en France au XIXe siècle. Constatant l'échec de cette tentative, qu'il a soutenue au départ, Charles V opte pour un régime monarchique basé sur l'état de droit, la justice étant l'un des piliers du prestige royal depuis Saint-Louis. La décentralisation, via la politique des apanages, et la garantie par l'État de la sécurité physique, par l'instauration d'une armée permanente, et monétaire, par la création du franc. Il finance cette politique, qui reste en l'autorité royale, par l'instauration d'impôts permanents. Le commerce en France ne pouvant se faire sans la sécurisation des axes commerciaux terrestres, la bourgeoisie finit par accepter un État fort financé par une fiscalité lourde qui évolue progressivement vers l'absolutisme du XVIIIe siècle. Exploitation de l'image d'Étienne Marcel. Étienne Marcel revient comme figure emblématique sous la Révolution. Lorsque le 17 juillet 1789, Louis XVI est reçu à l'hôtel de ville par le nouveau maire Jean-Sylvain Bailly, il doit porter la cocarde bleue et rouge aux couleurs de Paris. Lafayette qui lui remet, y rajoute, par respect pour le roi, le blanc, sa couleur, ces trois couleurs deviennent celles du drapeau national le 15 février 1794. La scène n'est pas sans rappeler Charles V coiffé du chaperon bleu et rouge le 22 février 1358. Étienne Marcel devient un mythe républicain à la fin du XIXe siècle, quand la Troisième République à ses débuts recherche dans l'histoire nationale des champions de la liberté et de la nation comme Jeanne d'Arc ou Vercingétorix. Il incarne le révolutionnaire à l'aune des bouleversements politiques du XIXe siècle et comme l'ont noté Michel Mola et Philippe Wolfi. Jusqu'au XIXe siècle, Étienne Marcel et les Jacques ont été condamnés comme des révoltés, destructeurs de l'ordre établi. L'histoire romantique en a fait des héros, ancêtres lointains de la Révolution. Marcel, représentant la bourgeoisie, avec son efficacité et ses vues d'avenir, ses origines bourgeoises, mais aussi le fait qu'il se soit affirmé comme le défenseur des petits artisans, contre les puissants en fait un, démocrate, avant l'heure, c'est principalement parce qu'il a la rue derrière lui qu'il est incontournable, en 1358, qui est plus mis en avant que d'autres figures telles que Robert Lecoq, membre du clergé, ou Charles le Mauvais issu de l'aristocratie qui ont eu pourtant un rôle au moins aussi important à la même époque. L'historiographie républicaine puis marxiste a souvent usé d'anachronismes pour construire la légende du héros, l'un des plus illustres citoyens de la Gaule, Danton du XIXe siècle, qui fit créer par les États une quasi-république. La fameuse statue équestre des jardins de l'hôtel de ville de Paris, qui date de cette époque, a été inaugurée le 14 juillet 1888. En 1879, Camille Saint-Saëns écrit un opéra en quatre actes, Étienne Marcel. G. Champagne lui consacre une pièce au titre évocateur en 1884, Étienne Marcel, ou le défenseur du peuple,